sonore.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.
Fluxfor, la radio du festival Entrevue, et il est déjà l'heure de recevoir nos derniers invités de la soirée. Et quels invités ? Bonsoir Yann Dedet.
Bonsoir.
Alors vous êtes accompagné pour cette discussion de Pierrick Bailly. Bonsoir Pierrick.
Bonsoir.
Et de Sagamore Stevenin. Bonsoir Sagamore.
Bonsoir.
Alors c'est vraiment un bonheur et un immense honneur de vous avoir tous les trois sur notre plateau et pour faire les présentations si besoin est. Eh bien, Sagamore Stevenin, vous êtes comédien et l'aîné d'une fratrie d'actrices et d'acteurs, Robinson, Salomé et Pierre, pour les nommer, ayant eu pour papa un certain Jean-François Stevenin, qui n'est certainement pas pour rien dans la transmission de cette fibre artistique et de ce goût de l'interprétation qui est le vôtre. Quant à vous, Pierrick Bailly, vous êtes écrivain, auteur de 7 livres qui ont tous paru chez POL. Celui qui s'intitule Le roman de Jim a été porté à l'écran en 2024 par les frères Larieux, avec le succès que l'on connaît. Et votre dernier texte, publié en 2023, La Foudre, a lui aussi été plébiscité par le public et la critique. Vous vivez et écrivez entre Lyon et le Jura, où vous êtes né, dans le village de La Franée, plus précisément. Est-ce que je le prononce bien ?
Très bien, c'est ça.
Parfait. Et cela a son importance par rapport au film dont nous allons parler ce soir. Ce Jura, dont les habitants et les paysages forment la matière vivante et vibrante de vos histoires. Et enfin, Yann Dedet. Vous êtes une figure essentielle et incontournable du cinéma français que vous avez fait bien mieux que simplement traverser depuis 50 ans, puisque vous l'avez profondément marqué de votre empreinte de monteur, en collaborant notamment avec des cinéastes aussi importants que François Truffaut, Maurice Pialat, Philippe Garrel, mais aussi Cédric Kahn, Catherine Breillat, Manuel Poirier, Laetitia Masson, Maïwenn Lebesco ou encore Joachim Lafosse. Le temps nous manque pour toutes et tous les nommer ici. Entre deux territoires rêvés et aimés, l'archipel japonais et le Haut-Jura, vous avez vous-même réalisé des films, dont un long métrage intitulé Le pays du chien qui chante, qui il y a un peu plus d'une vingtaine d'années revenait sur les terres des aboyeurs jurassiens, cher à l'auteur du film dont nous allons parler dans quelques instants ensemble. Et vous êtes aussi écrivain, et quel écrivain, celui de cette prose qui mêle verve, esprit et élégance et que l'on retrouve dans vos 4 ouvrages publiés dans cette maison qui est aussi celle de Pierrick, POL. Je dis 4 ouvrages parce que si le dernier en date, Silésie 1970, est signé de votre ami Jean-François Stevenin, c'est bien vous qui l'avez préfacé, dirigé, déroché et mis en forme, en bon monteur que vous êtes, suite à sa disparition en 2021. Et justement, si vous avez tous les trois répondu présent à l'invitation du Festival Entrevue, c'est pour accompagner la projection d'un film qui tient une place à part, singulière et unique dans l'histoire du cinéma français. Ce film, c'est Passe-Montagne, réalisé donc en 1978 par Jean-François Stevenin, une œuvre qui avait tout pour être célébrée ici, à Belfort, puisque Entrevue, c'est le festival des premiers longs-métrages, et que celui-là en était un. Et il se trouve qu'Entrevue, cette année, s'articule aussi autour de deux programmations thématiques, l'une sur l'amitié au cinéma et l'autre sur les imaginaires du Jura. Alors, amitié et Jura, deux motifs qui transparaissent évidemment, nourrissent, innervent de bout en bout justement ce Passe-Montagne que vous avez tous les trois présenté au public d'Entrevue il y a quelques heures à peine. Mais avant de tenter de lever avec vous quelques-unes des brumes qui enveloppent encore ce premier des 3 films qu'a réalisé Jean-François Stevenin, peut-être vous demander à tous les trois pourquoi, 47 ans après sa sortie, ce film continue d'être auréolé à ce point d'une réputation quasi mythique, légendaire, et pourquoi il est important de regarder et de montrer Passe-Montagne au public, notamment au jeune public, ou à toutes les personnes qui seraient tentées de se lancer dans l'aventure artistique et pourquoi pas cinématographique.
Je peux répondre en premier volontiers sur le fait que c'est parce que c'est un OVNI, c'est-à-dire objet filmique non identifié, ce que je dis dans le livre, c'est un mot que je répète et qui me paraît toujours assez juste aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve un des spectateurs qui m'a dit tout à l'heure, ça a été très difficile de rentrer, mais quand j'ai décidé de me laisser aller, voilà. Et ça vraiment, je trouve que c'est un mot absolument magique pour définir ce film, et tout à fait réel, parce qu'effectivement, on résiste. Souvent, les gens me disent à la sortie, mais on ne comprend rien à ce qu'ils disent, ou des choses comme ça. Or, la parole humaine étant, comme le bruit des forêts, le son des forêts, le son des ruisseaux, etc., traité comme de la musique par Jean-François, il est normal que... il est tout à fait intrinsèque au film qu'on ne comprenne pas tous les mots, mais que... c'est plutôt la musique qui joue, voilà. Et j'étais vraiment ravi que ce gars, il y a souvent des gens qui disent des choses comme ça. Il y en a qui résistent et qui s'en vont. Il y en a, j'ai vu même à 10 minutes de la fin, j'ai vu 2 personnes partir tout à l'heure. Donc c'est vrai, quelquefois ça résiste fort. Mais justement, comme toutes les choses qui résistent, une fois qu'on entre dedans, ça explose.
Et on voit d'ailleurs que pour les jeunes créateurs, Passe-Montagne, c'est encore quelque chose de très important. On vient de recevoir Léo Couture et Anton Balekjian qui ont réalisé Laurent dans le vent. Et en off, ils nous ont dit à quel point ce film avait été important, y compris dans leur processus de création pour ce film. Qui, c'est vrai, reprend quelques éléments de Passe-Montagne.
Je crois aussi, je joue très vite que sur le second aussi, ça marche très très fort. Double Messieurs, il y a beaucoup de jeunes réalisateurs qui m'ont dit, mais c'est incroyable, on ne fera plus jamais de film comme ça. On continue à être dans les ovnis.
Alors bah justement, par rapport au fait que le film est vraiment très très singulier, et là on appuie sur sa singularité, est-ce qu'en 2025, on pourrait encore produire et réaliser un film comme ça? Justement, vous venez de répondre, mais en termes d'économie, parce que je sais que ça a été toute une aventure en fait, ce film. C'est un film qui a été longtemps désiré et rêvé par son auteur. Quand on lit Silésis 1970, justement, on se rend compte que dès 1970, donc quand Jean-François Stévenin est assistant pour Peter Fleischmann, il réfléchit déjà à créer ce Passe-Montagne qu'il fera 8 ans plus tard. Et d'ailleurs, le titre de travail, je crois, à ce moment-là, c'est Les Plouks.
Les Plouks, le premier titre, c'est Les Plouks, oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé pendant 8 ans là, pour qu'il arrive justement à formuler ce rêve et que ça devienne concret?
Je crois qu'il est passé de ce que j'appelle les 1000 pages, qui sont peut-être un peu moins, qui doivent être copieux, dans lesquels il a peu à peu fait le tri pour arriver à faire un scénario qui soit présentable à l'avance sur recette et qui touche le blé, voilà, c'est ça. Bah alors aujourd'hui, j'imagine faire un film comme ça. J'ai l'impression quand même que c'était aussi difficile à l'époque, puisqu'on a mis vraiment très longtemps. Et comme je le répétais plusieurs fois, personne n'y croyait. Ni Barbet Schroeder, qu'il produisait, parce que pour rendre service à Jean-François, qui l'avait beaucoup aidé sur Maîtresse, qui lui avait fait gagner une semaine de tournage. C'est pas rien, une semaine de tournage sur 7 ou 8. C'est énorme en budget, etc. Donc, il lui devait une fière chandelle et il lui a dit « Oui, je produis ton film ». Mais il s'en est immédiatement mordu les doigts. Et personne n'y croyait. Pierre Andrieux, le directeur de production, n'y croyait pas. Margaret Ménégo, sympathique, mais à cause de la germanophilie de Jean-François, mais n'y croyant pas tellement. Et tous les gens autour, vraiment plus que dubitatifs, y compris les Jurassiens, mais les Jurassiens beaucoup plus intelligemment que les Parisiens, puisque au lieu de dire non, il y a peu de chances que ça se fasse, ils rigolaient en disant ça ne va pas se faire. Ce qui est beaucoup plus de l'ordre de la santé, comme évidemment elle est plus courante dans le Jura qu'à Paris, c'est normal.
Est-ce que vous, Yann Dedet, quand Jean-François Stévenin était en train de tourner, de préparer, de tourner le film, vous avez douté à un moment donné de la faisabilité
jamais.
De la chose?
Jamais. Je crois jamais. Je crois jamais, d'abord parce que je suis tombé complètement amoureux de Jean-François d'un jour à l'autre quand il a passé le cap d'être acteur. Il avait fait un petit rôle extraordinaire dans Out 1 de Rivette avec Juliette Berthaud, où il est cassé à la gueule dans un bar, une séquence vraiment extraordinaire. Et puis là, Truffaut lui a dit premier rôle. C'est pas un premier rôle parce que il y a pas mal de rôles égaux, disons, dans l'argent de poche. Et puis Jean-François a dit oui. Et puis Suzanne lui a dit bon, tu fais quand même assistant. Et il a eu le courage de dire non. Évidemment, Suzanne était très vexée, mais il était essentiel que Jean-François passe le cap et que, au lieu de jouer à l'acteur dans la vie, moi, c'est marrant parce qu'il me rasait un peu avant, parce qu'il faisait des numéros d'histrion permanents, etc., des histoires à rallonge qui étaient drôle, mais toujours trop longue, enfin quelque chose d'un petit peu en sur-show, S-H-O-W. Et là, étant donné qu'il réalisait être véritablement acteur, d'abord il est absolument excellent dans, c'est un des films où il est le meilleur, L'argent de poche, et ça, mentalement ça lui a fait passer un cap extraordinaire, et donc c'est de ce gars-là qui devenait ce dont il rêvait, une des deux choses dont il rêvait, que je suis tombé, on peut dire, vraiment amoureux, et donc là, c'était plus que de la foi, c'était de la boule. Il était hors de question que ce film ne se passe pas. En plus, quand il le racontait, c'est un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en dehors de l'écrémage des 1000 pages, à chaque fois que Jean-François racontait une scène de son film, il la racontait différemment. Donc il faisait le tour de tous les possibles d'un film à venir, donc toujours en mouvement.
Le tour de tous les possibles, et aussi le fait d'avoir, comme ça, été assistant, premier assistant, deuxième assistant, il a touché à tout. Finalement, les métiers du cinéma.
Il a même été assistant décorateur de Koïtsvelko. Ouais. Enfin, il a fait vraiment des choses très différentes, oui.
Donc, il s'est vraiment forgé un bagage énorme. Et je sais que sur le tournage de Passe-Montagne, il connaissait les focales de chaque caméra,
exactement. Par cœur. Enfin,
il
exactement. Était... Et même sur les films dans lesquels il joue, hein, il a toujours su où le cadre est exactement, s'il est coupé à la ceinture ou à la poitrine et tout ça. Il a vraiment, je le disais tout à l'heure aux gens, là, il n'avait pas besoin de l'œilleton professionnel des professionnels de la profession. Son œil humain servait à ça, à savoir, parce qu'il a regardé trois fois dans la caméra et il sait comment se passent les choses, il le savait. Donc, voilà.
Il arrivait à matérialiser des images, c'est ça qui était
exactement.
Dingue. Moi, je me souviens que je l'ai rencontré quand j'avais 19 ans. Il est venu à l'université de Rennes, en fait, où j'étais en fac d'art plastique et je ne connaissais pas du tout Jean-François Stévenin. Et il a commencé à nous parler de Passe-Montagne. C'est là que j'ai découvert Passe-Montagne, en plus, un choc. Et la façon dont il parlait de Cuba, de Johnny, c'était génial parce que, en fait, c'était un film. Il était en train de mettre en scène un film sur scène. Et en l'écoutant, on voyait des images. Donc je me dis qu'effectivement, il avait ça dans le son. Enfin, oui, vous parlez de virus à son propos.
Mais... Oui, oui. On le voit bien dans Silésie, c'est très net. D'abord aussi, l'histoire de Silésie, je le dis dans la préface, tout a été enregistré. Il enregistrait sur mini-cassette le soir tous les problèmes de la journée et ce à quoi ça le faisait rêvasser, etc. Puis il a transcrit tout ça à la Remington, 6 mois après le tournage. Et puis, quand j'ai publié, je dirais, on a publié Le Lapin, puisqu'il y a moitié sa voix, moitié la mienne, il avait envie que ça passe à l'écrit, il m'a dit on se met à travailler là-dessus, sur donc la frappe de Silésie, tout ça. Puis comme c'est à la fois un gros travailleur et un gros flemmard, comme les gros travailleurs gros flemmards, que je suis aussi, ça dépend des périodes, c'est des montagnes russes, il n'a rien fait. Moi j'avais vaguement commencé dans les 3 premières pages à rajouter Berthaud au bout du nom de Juliette ou des choses comme ça pour que les choses soient claires. Et puis le lendemain de sa mort, j'ai amené ça à mon éditeur, apporté le manuscrit à mon éditeur, qui m'a dit tout de suite on publie, mais donc j'ai travaillé dessus pour l'éditorialiser, c'est-à-dire rendre des choses pas compréhensibles. Et plus je travaillais, plus je revenais à la source, c'est-à-dire à la source vocale de ce qui a été enregistré par Jean-François, en laissant quelquefois des choses pas compréhensibles, mais devinables par sa poésie, plutôt que de préciser. Alors évidemment, Juliette Berthaud veut mieux préciser, mais en revanche, des tournures étranges, enfin ça, son vocalisme extraordinaire, totalement poétique et tout ça. Plus je travaillais sur le livre, moins je travaillais, d'une certaine façon.
Sagamore, par la publication justement de ces textes récents signés de Yann, par exemple Le Point de vue du Lapin ou Silésie, est-ce que vous avez redécouvert ou découvert ou appris des choses à propos de votre père et de son travail qui avait été justement exhumé dans le récit que nous faisait Yann de cette époque, de cette période?
Apprendre en soi, je suis pas sûr. Redécouvrir de façon permanente, j'allais dire, c'est un peu, il faut bien qu'il y ait quelques avantages à être fils d'eux. Comme je ressors là de Passe-Montagne, je le revois. Alors, ce qui est étrange, c'est que je le vois plus jeune que l'âge que j'ai aujourd'hui. J'ai l'impression de revoir aussi beaucoup de fantômes, parce que pour moi, tout ça, c'est un album de famille, en fait, Passe-Montagne. J'ai vraiment grandi au milieu de tous ces gens-là, de ces sapins, de ces atmosphères, de ces brumes, de l'auberge du Grand Veau. Dans Silésie, ça m'a fait autre chose, parce que j'ai le texte lui-même a eu un parcours déjà très étrange. Il a été perdu pendant 25 ans, 30 ans, 40 ans même presque, on pourrait dire. Et le jour où ils ont décidé de vendre la maison dans laquelle ils vivaient avec ma belle-mère à Meudon, Jean-François s'est mis à trier un peu tous ces paplards, à un moment, il est retombé sur ce bout de texte-là. Et il n'y avait qu'un original, en fait, ce qui avait été tapé à la machine. Donc il m'a demandé à moi, comme un espèce de gros idiot, si je pouvais numériser quelque chose. J'ai vite refilé le bébé à ma gonzesse, qui, elle, est beaucoup plus balèze que moi. Et donc on a, dans un premier temps, sauvegardé ce qui avait été écrit. Et ensuite, quand Jean-François est parti, il y a le fidèle Oberstreifführer, le lieutenant de Yann Dedet, qui à un moment s'est dit, voilà, il faut que ça sorte, il faut que ça vive, il faut que ça se transmette. Et à l'intérieur de ça, oui, là, j'ai découvert des choses parce que j'ai retrouvé des choses de lui assistant, j'ai retrouvé des choses de lui dans son amour un peu fiévreux, amoureux par rapport à ma mère, qu'on sent dans le début de Passe-Montagne, c'est le coup de téléphone qui ratatouille, qui va pas, que voilà, d'un point de vue d'enfant, j'ai retrouvé ça d'un point de vue, j'allais dire, cinéma. Il nous a tellement appris à faire de notre vie, de nos vies, des films, que c'est pas là que j'ai appris, voilà.
Justement, en plus, vous parliez que vous aviez grandi au milieu de ces brumes et de ces sapins. Vous étiez tout jeune au moment du tournage, vous aviez 4 ans.
Ouais.
Et le film commence par la dédicace aux Indiens. Donc ça veut dire que l'idée de Passe-Montagne trottait déjà forcément dans la tête de votre papa au moment de votre naissance, puisque votre prénom, Sagamore, a pour origine les tribus indiennes d'Amérique du Nord. le film.
Produit par Segamore Cinéma, quand même.
Ça oui, bah voilà, en plus, voilà. C'est ce qui enfonce le clou. Et j'imagine que c'est peut-être quand même compliqué d'en avoir des souvenirs, ou vous en avez des souvenirs du tournage ?
Non, j'ai des flashs. J'ai des flashs de moments, essentiellement Tata Denise, qui est la dame qui me porte dans ses bras au tout début du film, où on apparaît un peu comme ça, parce que c'était devenu une maman. C'est la chance que j'ai eue de grandir dans un univers comme ça, c'est que tout le monde devient un moment un peu le tonton, le papa d'adoption. Autant j'ai jamais trop cru à l'histoire de la grande famille du cinéma, ça je crois que c'est des conneries marketing. Autant j'ai compris avec Jean-François, avec Yann, avec Nuiten, avec tous ces gens-là. Déjà, il y a eu pas mal d'enfants sur Passe-Montagne. Enfin, on est des enfants de Passe-Montagne. Je parle de Jules pour Yann. Enfin, il y a eu. Mais de ce point de vue-là, oui, ça, c'est une famille. Et les Circus et les Pierres font partie de cette grande famille du cinéma, de mon point de vue.
Est-ce qu'il y a eu un moment où votre père a souhaité prendre le temps de vous montrer le film lorsque vous étiez un peu plus âgé, le regarder avec vous, le partager avec vous, partager peut-être l'histoire de sa création, ou était-il plutôt pudique, quelqu'un de pudique par rapport à son travail ? Je sais que la relation était pudique, par exemple, avec Yann sur le tournage de Passe-Montagne, il me semble que finalement, il n'y avait pas de grande déclaration d'amitié, l'amitié, elle passait par le travail.
Par l'acte, par les voilà. Actes, toujours.
Alors là, je suis franchement... Non, il m'a jamais montré le film. Comme je racontais qu'on a un peu présenté le film, il a d'abord essayé de m'empoisonner avec Yann en allant à Pont-de-Poite à l'avant-première. On a failli mourir dans une vieille Renault 5. Voilà. Pudique, je sais pas. C'était ni un père-pote, ni un père-père. Fallait que ça soit Cinoche, quoi. Peu importe ce qu'on fait, dans les excès, dans les extrêmes, dans les calfons, dans les villerets, dans l'alcool, dans la dope, dans le rock'n'roll, dans la moto, Cinoche. Donc peut-être que j'ai jamais rêvé, moi personnellement, d'être comédien. Je me suis juste dit, finalement, c'est le seul job que je peux faire, parce que j'ai jamais fait la différence entre la vie, ce qu'on appellerait la vie réelle pour des gens, et le cinéma. Il y a des moments, c'est un peu compliqué pour les gens qui nous entourent. Et puis, il y a des moments, ça rend des moments un peu tragiques de vie plus faciles. Quand mon père est mort dans mes bras ou ma mère, j'étais pas apitoyé ou triste. Pour moi, c'était du cinoche. Ça, là, ce soir, on est encore dans un film.
Le film continue, quoi.
Ouais, ouais.
Pierrick Bailly, de quelle manière Passe-Montagne de quelle manière ce film qui a été tourné par un autre enfant du Jura, Jean-François Stevenin, hein, qui est né à Lons-le-Saunier, donc pas très loin finalement de chez vous, est-il entré dans votre vie ? Quelle est son importance dans votre imaginaire d'écrivain ?
Ça a un peu à voir avec ce que disait Sagamore, c'est-à-dire que en le voyant, le revoyant, j'ai l'impression de replonger dans l'enfance, dans le passé, quoi, parce que oui, exactement comme Sagamore vient d'en parler. Les personnes, les lieux, les forêts, les sapins, l'accent, le parler, les gestes, les rituels, les soirées, les bringues, le patois même. À un moment, il y a un personnage qui arrive, qui ouvre une porte et qui dit « Oh, les vioules !» Et en fait, vioule, c'est du pur patois local, qui est presque une insulte, qui qualifie quelqu'un qui parle un peu trop et qui est un peu con, quoi. Et en même temps, dans la bouche du personnage, il y a quelque chose de très affectueux quand il le prononce. Et tout ça, quand on a grandi dedans, quand on est né là-dedans, qu'on a grandi dedans, qu'on a baigné dedans pendant 20 ans, de le voir incarné aussi bien dans un film... C'est exactement l'effet album de famille dont tu viens de parler, Sagamore. C'est une plongée, mais qui est physique, du fait aussi. Il y a quelque chose d'un peu vertigineux à chaque fois de se remettre face à ce film, parce que c'est ce que disait Yann Dedé tout à l'heure, c'est-à-dire que le film, c'est un récit, c'est une histoire, il y a des acteurs, machin, Villeray, formidable, mais c'est quand même une secousse. émotionnelle très forte, quoi. C'est une émotion formelle. C'est vraiment. Moi, tout à l'heure, dans la rencontre, j'ai fait une question un peu à côté où je demandais s'il y avait des références picturales au film, parce que, alors en effet, ça faisait un peu un télo dit comme ça, et c'était à côté de la plaque par rapport à ce qui a entraîné Jean-François à faire ce film, à ce qu'il était, à comment il faisait, comment il pratiquait son art. Mais moi, j'ai l'impression d'être aussi face, finalement, quand je vois le film, à Courbet ou à Soutine ou à Pollock. Il y a quelque chose dans le geste qui est de cette puissance-là, quoi. Et même en termes de littérature, on est aussi là, du côté de Céline, de Rabelais, de, je sais pas, de Dostoïevski. Il y a quelque chose d'une puissance de la forme, de la langue, du rythme, avec cette phrase qui est vraiment la sienne. Qu'elle soit parlée, qu'elle soit par le montage, qu'elle soit par tout, par le filmage aussi. C'est pour ça que, quand même, bien sûr, il n'avait pas des références picturales, tout ça, mais vous le disiez pendant la rencontre, il est hyper attentif à la lumière, c'est oui. Ça qui le marque et qui
peinture, sa peinture, c'est le cinéma. Je peux ajouter aux auteurs que tu as cité André Dautel, dont je ne sais pas si tu le connais, mais l'univers de Dautel dans la série Homme de la qui marche vers la quarantaine à reculons, c'est très très fort dans André Dautel, qui est un auteur que j'adorais quand j'étais adolescent et qui a écrit des trucs magnifiques sur effectivement quand on commence à ne plus être jeune et vouloir le rester. Voilà, cet univers-là est très fort. Et mon père, que Jean-François adorait, lui avait d'ailleurs dit de Passe-Montagne, ça ressemble au pays où on n'arrive jamais, d'André Dautel. Et c'est vrai qu'il y a une grosse proximité. Tu devrais le lire un jour, parce que je pense que ça te plaira énormément. Et Jean-François, je crois, ne l'avait jamais lu, mais comme c'est un inventeur, il n'y a pas besoin, comme tu le disais tout à l'heure, de voir des peintres pour être peintre de cinéma, ni de lire tous les auteurs pour ressembler à des univers extraordinaires comme celui-là.
Alors, comme on est en train de parler des multiples et vertigineuses inspirations qui peuvent émaner de Passe-Montagne, dans votre travail d'écrivain, Pierrick Bailly, par rapport au montage, puisque c'est un film, voilà, c'est un film monté, c'est un film dans lequel le montage a une importance essentielle, est-ce que ça vous a éclairé sur certains points de votre propre écriture ou donné des clés?
Je dirais autoriser plutôt qu'éclairer. Et c'est avoir pareil quelque chose dont on parlait pendant la rencontre. C'est que moi, j'ai vécu une expérience un peu similaire dans les retours des lecteurs après mon premier livre, qui était un livre qui, entre autres, était écrit sous perfusion, sous influence de Passe-Montagne. Et c'est un livre qui a été rejeté par certains lecteurs jurassiens et même des gens qui arrivaient en librairie, qui le prenaient, qui le jetaient par terre en disant « on n'a pas le droit de publier ça, vous n'avez pas le droit de vendre ça, c'est de la merde et tout, ça donne une image de nous déplorable, machin ». Et oui, quand j'étais jeune et que j'ai commencé à écrire, des films comme Passe-Montagne et toutes les œuvres qui nous marquent, et tout ça a été un passeur d'énergie, comme lui disait, de Cassavetes ou de Monty Hellman. Et c'est le fait tout simplement d'autoriser à faire un travail sérieux qu'on va qualifier d'artistique, c'est peut-être un peu pompeux de dire comme ça, mais à partir d'une matière qui est à la fois hyper intime et familière, et puis qui paraît un peu triviale, un peu prosaïque, parce qu'on nous a quand même tous mis dans la tête à l'école que pour avoir quelque chose à dire, il fallait parler de certains milieux, de certains mondes, et on nous a pas forcément encouragé à parler de notre monde, quel qu'il soit, quoi. Donc il a eu cet effet-là, ouais, le film.
Et puis, puisqu'on parle de l'effet du film, il y a aussi quelque chose d'intéressant, puisqu'il me semble que le film s'est tourné non loin de votre village, de La Fresnaye, notamment la ferme où habite Serge. Donc du coup, il y avait comme une légende, comme ça, qui les gens parlaient du tournage de Passe-Montagne comme une sorte de légende. Là, je merci Yann Dedec qui m'a glissé à cette information à l'oreille ce matin.
Bah oui, bien sûr. Moi, j'ai pas connu. Quoi. Je suis né après le tournage, mais j'ai beaucoup entendu parler du tournage par des habitants, des voisins et par mes parents qui se souviennent du tournage, qui ont fréquenté beaucoup plus que moi le casino des Chauvins et à l'époque où il y avait Raymond, le chien, tout ça, quoi. Et parce qu'il y a eu plusieurs époques, j'ai l'impression, au casino et tout ça. Et c'est vrai que La Franée, c'est toute la première partie du film, La Ferme, où on s'est retrouvés tous les trois il y a 2 mois, puisqu'on s'est fait une fondue.
Grâce à toi.
Une fondue au bord du lac de l'Abbaye. Puis en parlant comme ça, on s'est dit, mais on pourrait retourner sur les lieux. Et moi, comme je connais le type qui habite dans cette baraque, et ben, j'ai passé 2-3 coups de fil, puis on a débarqué. Et la maison a beaucoup changé. Elle est un peu aseptisée, elle est modernisée. Mais je crois que ça a été assez émouvant pour Sagamore, pour Yann, de revenir sur un plateau de tournage qui était transformé par le temps.
Sur les lieux du crime.
Voilà. Et de voir même les gens qui y habitent et qui étaient eux aussi très émus, très, très fragiles d'avoir affaire à cette mémoire un peu intimidante. Et après, on est allé dans La Franée, dans le village, qui est quand même un village très spécial, qui est un tout petit village. Alors aujourd'hui, pareil, il y a 2-3 belles baraques. Il y a beaucoup de Suisses et de Hollandais qui ont racheté des maisons. Donc le village ne ressemble plus du tout à ce qu'il était quand j'étais petit et quand Passe-Montagne a été tourné. On a croisé quand même 2-3 personnes qui nous parlaient du tournage. Même en repartant, moi, j'avais dit à Sagamore, j'avais des SMS qui disaient « Ah, mais tu t'es pas arrêté, tu sais pas qu'en fait j'étais au collège à Lons avec Stévenin, j'aurais pu parler, machin, tout ça. » Et puis il y avait, en fait, tout au bout du village, le village c'est une reculée, il est au bout d'une reculée, c'est-à-dire une vallée fermée, on peut pas aller plus loin, c'est un bout du monde. Et au bout du village, il y a une cascade et un restaurant. Et il me semble, quoi, c'est Yann qui en parlera, que vous réunissiez, que l'équipe se réunissait, peut-être dormait, je ne sais pas si vous dormiez là-bas.
On dormait là, puis on mangeait là-bas. Oui. Et comme tout ça se levait très tard grâce au rythme infernal de Jean-François, donc ce n'était pas des petits déjeuners à 6 heures du matin pour être sur le plateau à 7 heures, mais c'était plutôt à midi, une truite au bleu avec du café. Donc voilà, c'était un peu c'est le style Jean-François, il n'y a pas de doute. Voilà. Et nous, effectivement, on allait tout le temps à la cascade et puis on habitait à l'intérieur du village, là où on est devant, quoi, on est passé là où il y avait les chambres et tout ça, mais on a été pendant tout le tournage du bas, on a habité là-bas, c'est vrai, oui, bien sûr.
Et puisqu'on parle de géographie affective et intime par rapport à ce territoire très, très particulier, très puissant, je me demandais, Pierrick, quand on a vu Passe-Montagne, est-ce qu'on regarde différemment le pays d'où on vient, puisque en fait on peut se dire après avoir vu ce film, ah ben finalement chez moi c'est l'Amérique et il y a des Indiens, quoi. Enfin, il y a peut-être un petit... C'est peut-être un film qui peut apporter ça, qui peut apporter un regard autre et qui peut aider, en certains cas, peut-être même à aimer le pays d'où on vient. En tout cas, de faire la paix avec lui, quelque part.
Ouais, ça y participe, ça confirme aussi, ça confirme des intuitions. Et puis, c'est vrai qu'il y a une chose à laquelle je pense, là, avec votre question, c'est que je crois qu'avant de le voir, j'en ai entendu parler beaucoup. Et donc, je l'ai fantasmé. L'expérience, la découverte a été à la hauteur du fantasme. Ce n'est pas toujours le cas dans la vie. Mais là, ça a vraiment été ça. Et voilà, on en a parlé. Puis à l'époque, moi, quand je l'ai découvert, en fait, c'était plus difficile qu'aujourd'hui de trouver un film. Il n'y avait pas la Cinéthèque ou les DVD ou tout ça. Et je me souviens de ce temps où je commençais à m'intéresser au cinéma, où mon père me rappelle qu'il y a eu ce film tourné, machin, et où moi, je ne pouvais pas le voir techniquement. Il n'y avait pas de cassette chez mes parents de Passe-Montagne. Et à un moment, je me suis retrouvé, je ne sais plus, quelqu'un qui me dit « Ah bah, j'ai la cassette ». Et là, je me dis « Ah, mais je veux le voir ». Et là, vraiment, c'était le sésame. Et oui, il vient confirmer quand même. Je ne dirais pas qu'il m'a totalement ouvert les yeux ou il n'a pas changé mon regard sur le Jura et quoi, sur l'endroit où j'ai grandi, mais je crois que dès cet âge-là il a eu quelque chose plutôt de réconfortant et d'encourageant. Ouais.
Oui, parce que moi je pense d'un coup à Passe-Montagne et je pense aussi à des films comme Les Petites Fugues de Yves Hirsin ou je pense Au fil du temps de Wim Wenders. C'est des films, en fait, quand je les ai vus assez jeunes, adolescents ou jeunes hommes, je me suis dit, ah ouais, l'Europe, ça peut ressembler à ça. En fait, on peut la regarder comme ça. On peut la regarder comme Hopper peignait l'Amérique, comme Robert Frank faisait des photos aux États-Unis. Enfin, c'est... Quelque part, ouais, je sais pas, je trouve que ça participe vraiment de la puissance de ce film, de tordre un peu notre regard ambiant, quelque part, et de l'ouvrir sur de l'imaginaire différent. Et alors, bien sûr, pour finir, je voudrais qu'on aborde la question essentielle. Vous disiez... Yann Dedet à juste titre que Passe-Montagne, c'est de la musique. Et Passe-Montagne, c'est du montage. Et je crois que jamais un film ne m'a personnellement autant donné l'impression que le montage, c'est de la sculpture. En l'occurrence ici, de la sculpture sur bois, sur sapin. Il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux montages qui sans cesse se poursuivent, se reniflent, un peu comme les personnages dans le film. C'est le montage son et le montage image. Je m'explique. Il y a plein de scènes en fait, où on sent que le son a peut-être été rajouté après et n'était peut-être pas là dans l'intention première. Je prends un exemple tout bête dans la chambre d'hôtel. Jean-François Stévenin et Jacques Villeray sont sur le lit et puis ils se regardent comme ça et puis d'un coup on entend une femme de chambre qui rentre et qui dit « Oh pardon, mais on la voit pas ». Et je me demandais si ça c'était une intention de départ dans le scénario. Et à contrario, il y a aussi des moments où en fait, volontairement, au montage, on enlève le son, on enlève des bouts de phrases des gens. Enfin, il y a tout un travail de sculpture du son et de l'image là, qui est assez... Enfin, qui est magnifique parce que du coup, ça donne un film cubiste à la fin.
Oui, c'est vrai. Mais ça tient là, au goût de la fabrication de Jean-François, de transformation de son objet, puisque je disais tout à l'heure que le premier montage devait durer quelque chose comme 3 heures. Et Jean-François tourne en plan séquence très contrôlé, très défini, très beau et très qui mène quelque part, enfin, qui part sur un verre et qui finit sur un bouton de porte. Enfin, bref, je dis ça très schématiquement, mais effectivement, les trajets de ces plans séquences sont extrêmement précis, extrêmement narratifs. Ce premier montage, il l'a rejeté immédiatement en disant si c'est pour voir des beaux objets alignés sur la cheminée à la suite des uns des autres, moi c'est niette. En plus, vous avez parlé il n'y a pas longtemps de Im Laft Er Zeit, au fil du temps de Wenders, il venait de sortir et on l'avait vu évidemment avec Jean-François, était donc hors de question qu'en plus ça ressemble, disons, à un film avec des beaux plans ou des choses comme ça. Et puis un film très long qui faisait 4 heures, il fait 4 heures, je crois, Im Laft Er Zeit, qui est un film vraiment magnifique. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il est vraiment bien. Et donc, la lutte était double, hein, détruire les beaux plans qu'il avait, enfin détruire, reconstruire les beaux plans qu'il avait tournés et ne pas ressembler à un autre film secondairement, je dirais. Voilà. Et donc, cette première cuisine de saboter, hein, parce que souvent, il disait, bon, nous, on le disait, Stéphanie et moi, on était en montage et on lui disait, mais tu sabotes des trucs et tout ça. À quel point, de temps en temps, on mettait des séquences sur l'étagère des coupes et tout ça. Puis, alors, évidemment, il les reprenait. Je lui avais appris comment marchait la machine, donc il passait ses nuits à monter. Laborieusement au début, puis de mieux, évidemment, très bien, parce que c'est rien du tout, c'est très simple une machine de montage, hein. C'est comme une machine à coudre, ça fait et ça défait, c'est tout simple, il n'y a qu'à décoller et recoller. Et donc il a appris tout ça très facilement, et par exemple, il nous a sorti cette séquence incroyable qu'on appelle du coco vin à la fin du dîner, dont on ne savait pas quoi foutre, Stéphanie et moi, et qu'on avait essayé de monter, mais je dirais normalement, il ne fallait surtout pas, évidemment, et Jean-François l'a sublimé en prenant des bouts, justement, en cassant la temporalité. Quand vous parlez de montage double, je pense qu'il y a un truc extraordinaire qui se fait dans ce film-là. C'est que malgré toutes ces cassures, ces montages très abrupts, quelquefois très, très cut, au milieu des mots, etc.,
oui, c'est organique,
je pense qu'il y a c'est absolument organique, mais je pense que ça permet justement au temps de circuler à travers les collures. C'est vraiment un extraordinaire monteur. Moi, je me suis toujours dit, d'ailleurs, il était en train de faire Mishka, ça n'a pas pu se faire. Quand je ferai mon film, je le ferai monter par Jean-François. Parce que d'ailleurs, il est venu vaguement sur le tournage de mon film. Il m'a dit, tiens, tu devrais faire l'inverse. Enfin, c'est évidemment un destructeur-reconstructeur, hein, ce qui fabrique effectivement cette originalité extraordinaire qui n'est pas pour de l'originalité, mais qui est simplement pour faire vivre autrement les choses. La deuxième chose, vous venez parler du son, c'était les mots de code, c'était ça. Moi, je n'ai pas beaucoup monté dans ce film, c'est lui qui a tout monté, mais moi, j'étais tout le temps pour l'exciter en lui disant, vas-y, fais pire. Ça, c'était un des codes. Et l'autre code, c'était, c'est pour ça que vous parlez du son, et vous avez raison d'en parler comme ça. Ce qu'on voit, c'est pas la peine de l'entendre. Ce qu'on entend, c'est pas la peine de le voir. Bon, ce qui est pas exactement vrai, c'est pas littéral, mais c'est pas très, très, très. C'est une poursuite qui est permanente dans le film de ça. Je pense parce que c'est pour ça que vous avez ce sentiment. J'aime bien. On m'a jamais dit ça comme ça. Qu'il y a deux montages qui se courent après, qui se superposent. Ça, c'est très exactement ça, je pense.
Et j'imagine que vous avez... est-ce que Jean-François Stévenin, quelque part, dans sa manière d'inventer comme ça son cinéma et son montage, a changé, vous, votre manière de monter définitivement? Parce qu'en fait, après, il se passe 2 ans où vous montez aucun film et vous revenez chez Piala, vous arrivez chez Piala, oui. Plutôt, oui. Qui est un autre cinéaste d'ailleurs de la prise de vie plutôt que de la prise de vue.
Absolument.
Et là, au montage, il se passe quelque chose de très fort aussi. Ouais. Et on sent qu'il s'est passé quelque chose, en fait.
Il s'est passé quelque chose, oui. Très nettement, d'ailleurs, il a fini Loulou en me disant « Merci d'avoir coupé les portes du cinéma français ». Voilà. Et c'était très exactement ça. Et effectivement, Jean-François m'a donné un goût de l'ellipse assez forcené, ce qui fait que, par exemple, je me suis très mal entendu, de toute façon, je la déteste, avec Bria, puisque j'ai monté 36 fillettes et qu'elle me disait « Mais tu n'y comprends rien, laisse le plan entier ». Et c'est vrai que j'essayais de recréer dans ces plans éternels et assez ennuyeux un espèce de rythme, justement, que le truc aussi, l'autre... Troisième code avec Jean-François, c'est on en a pêché un gros. On en a pêché un gros, c'est couper quelque chose qui rajoute quelque chose, qui ajoute quelque chose. Voilà ce que j'essayais de faire sur le Brillat, évidemment. Toujours dit dans les colloques que j'étais un monteur lamentable, que je ne savais que couper, ce qui est vrai, puisque c'est le métier d'un monteur. Et ça n'allait pas du tout avec son style assez, je dirais, télévisé, où elle veut tout décrire absolument et que chaque détail écrit dans le scénario, qui est un miracle absolu, est important.
Alors, dernière question, ultime question. Vous savez qu'on ne peut pas terminer un entretien, Yann Deda et moi, sans parler de Maurice Pialat.
Ah oui.
Est-ce que Maurice Pialat avait vu Passe-Montagne et qu'est-ce qu'il vous en
Alors,
a dit ?
Alors, il s'est moqué, je le dis d'ailleurs dans le livre sur Maurice qui va paraître, là, qui s'appelle Portrait de l'artiste en salle môme. Il a vu le film et il a fait un truc vraiment très cruel, comme il est lui, mais assez. Il est tombé sur le moment effectivement critiquable, je dirais le plus. C'est quand Jean-François dessine cette espèce d'oiseau arc là, et montre le dessin à Villeray. Et je lui ai demandé à Maurice ce qu'il pensait du film. Et il m'a fait le geste du dessin de l'oiseau comme ça. Et il m'a dit « subtil ». Voilà. C'est très méchant, mais je crois qu'il visait vraiment ce qu'on peut être le seul acte truffalien du film. On pensait beaucoup à Truffaut hein, quand même. Il y a pas mal de choses truffaliennes qui viennent dans les sons, c'est-à-dire qu'on ne comprenne rien, ça va, mais il faut quand même comprendre un petit quart de ce qui va... Voilà. Donc on mettait des petites pistes au son et tout ça. Et d'ailleurs, sur le son, on est allé faire tous les 15 jours, on allait faire des sons dans le Jura. On a fait tous les doublages dans le Jura, sur la neige, au lieu dans l'auditorium, etc. Voilà, donc c'était assez cruel de Maurice, mais je pense qu'il a visé le seul moment où à chaque fois que je le vois, je me dis « Oui, c'est vrai, c'est un plan assez explicatif ». Mais c'est vrai que c'est ça qui fait passer l'amitié par le dessin, enfin par le projet d'un des garçons à l'autre, d'un des jeunes, des héros à l'autre. Voilà.
Et ben on terminera sur cette touche de subtilité pialatienne et on encouragera tous nos auditeurs et toutes nos auditrices à regarder et à revoir encore Passe-Montagne. Merci oui. infiniment Yann Dedet.
Merci à vous.
Pierrick Bailly, Saga Morstenard, merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Fluxfort.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.